Amen. Voilà, donc comme vous le savez, quand c'est mon tour de prêcher, nous sommes en train de prêcher au travers de l'évangile de Jean. Et alors, il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes dans Jean chapitre 10 à partir du verset 22. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jean chapitre 10 et pour aborder ce message absolument fascinant que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, le message, je l'ai intitulé « Saint et sauf dans les mains de Jésus ». Saint et sauf dans les mains de Jésus. La dernière fois, si vous étiez avec nous la dernière fois où j'ai prêché, nous avons examiné le célèbre texte sur le bon berger dans Jean 10, 1 à 21, le texte juste avant. J'avais intitulé mon message « Comment reconnaître un faux berger ?» Eh bien alors, notre texte de ce matin, qui commence au verset 22, se déroule environ 2 mois plus tard, d'accord, Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc alors, juste pour nous situer dans le contexte, on est 2 mois après, comme je viens de le dire, le message sur le bon berger, on est à Jérusalem, on apprend que c'est l'hiver, donc il fait froid, l'hiver en Israël fait froid, la pluie, le vent. Et ça explique le verset 23 qui dit « Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon ». Donc il y avait une sorte de colonnade, je ne sais pas comment on dit ça exactement en français, où les gens pouvaient se placer dessous, derrière les colonnes, pour être protégés de la pluie et des intempéries. Et ce qu'on apprend surtout, c'est qu'on célébrait la fête de la dédicace. Alors la fête de la dédicace n'est pas en fait une fête prescrite dans l'Ancien Testament, mais une fête néanmoins très importante. Cette fête commémore la victoire des Israélites contre le roi syrien Antiochus Épiphane, qui a vécu 175 à 164 avant Jésus-Christ. Et Antiochus avait envahi Jérusalem et avait profané le temple en 170 avant Jésus-Christ en sacrifiant un cochon sur l'autel et en érigeant la statue de Zeus dans le lieu très saint du temple. Son but était, il voulait essayer d'éradiquer le judaïsme une fois pour tout. C'était le premier roi païen à persécuter les Juifs. Alors certains Juifs, bien sûr, se sont rebellés, et sous le leadership de Judas Maccabée, peut-être vous avez déjà entendu ce nom, eh bien, ils ont repris Jérusalem en 164 avant Jésus-Christ, et le temple, et ont de nouveau, si vous voulez, consacré le temple à l'adoration du seul Dieu vivant, le Dieu des Juifs, d'où vient le nom, la fête de la dédicace. Et donc, c'était à cette époque de l'année où Jésus se promenait dans le temple. Et à partir du verset 24, les leaders juifs entourent Jésus pour lui poser une question. D'accord? Donc, ils sont tous dans le temple. Il y avait toujours beaucoup de monde dans le temple. Alors, ils viennent lui poser une question. En fait, on va diviser le texte. Alors, vous serez surpris. Bon, il y aura des sous-points. Deux points ce matin. D'accord? Premièrement, on va voir la question posée par les juifs. Et ensuite, on va voir la réponse donnée par Jésus. D'accord? Alors, premièrement, voyons la question posée par les Juifs à partir du verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Rappelez-vous que dans le chapitre 7, verset 1, les Juifs, donc ce sont les leaders juifs, voulaient la mort de Jésus pure et simple. Je vais lire chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ils veulent sa peau, ils veulent la mort de Jésus, point barre. Et là, ils l'entourent dans le temple et lui disent « Jusqu'à quand est-ce que tu vas nous garder en suspens? Dis-le-nous clairement si tu es le Christ. » Dis-le-nous franchement. Alors le mot Christ veut dire Messie. Quelque part, ils lui disent, est-ce que tu es le Messie promis dans l'Ancien Testament? Oui ou non? Alors, nous savons du contexte des chapitres précédents que ceci n'est pas une question innocente, posée par quelqu'un qui veut vraiment connaître le salut et comment être sauvé. Donc ces hommes cherchent à piéger Jésus de tous les moyens possibles pour le faire mourir. C'est leur but, leur objectif. Ici, ils veulent l'entendre dire qu'il est le Messie, qu'il est Dieu. Et c'est ce qu'ils vont conclure. Regardez verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc ils veulent l'entendre dire, je suis Dieu, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, d'accord? Et pour pouvoir l'arrêter pour blasphème. Mais le problème, c'est qu'ils sont coincés. Ils sont coincés parce qu'en fait, ils sont ébranlés par ces miracles. Et ça, on le voit très bien au chapitre 11, verset 47. Alors, il y a d'autres exemples. Mais dans 11, 47, il est dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc, d'un côté, ils veulent le faire mourir parce qu'ils sont jaloux et parce que selon eux, ils blasphèment en se prenant pour Dieu. Mais en l'autre côté, ils voient ces miracles et disent, bah mince, c'est quand même incroyable que ce gars fait tellement de miracles. Quel est son truc? Ou bien peut-être y avait-il un doute? Et on sait que pour certains, il y avait un doute, comme Nicodème par exemple, où lui, il a conclu vilainement que Jésus était Dieu. Donc voilà, ils sont tiraillés entre ces deux choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait déjà en fait très ouvertement proclamé sa divinité. Dans le chapitre 5 et le verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Tout le monde comprenait parfaitement que Jésus disait clairement, peut-être pas les termes que nous on utiliserait de nos jours, mais qu'il était Dieu. Et il le renvoie encore au chapitre 10 et le verset 33. Ici, ils veulent qu'il le déclare publiquement afin qu'il puisse vraiment l'arrêter et le faire mourir. Ça, c'est la question. Est-ce que tu es le Christ? Ben, le deuxième mois, c'est la réponse donnée par Jésus. La réponse donnée par Jésus à partir du verset 24, d'accord? À partir du verset 24. Et là, ce qu'on va voir, c'est que Jésus va donner quelque part quatre preuves. Quatre preuves, parce que regardez comment il répond. Les Juifs l'entourèrent, lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit. Alors voici maintenant les quatre preuves. La première preuve, c'est mes œuvres l'affirment. Mes œuvres affirment ma divinité. Regardez le verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alors, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, Jésus avait déjà à nombreuses reprises affirmé qu'il était Dieu et ils avaient conclu qu'il se prenait pour Dieu. On vient de le voir, d'accord? Il y a un autre exemple, je viens de le lire, là, 5, 17. Oui, je viens de le lire, d'accord? Alors, dans notre culture et notre langage, ce n'est pas peut-être comme ça qu'on l'aurait articulé. Je vais quand même prendre 5, 17 juste pour l'exemple, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Mais, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, les formulations de Jésus, pour nous, peut-être on dit, bon, est-ce qu'il vraiment, ça veut dire qu'il se prenait pour Dieu? Eux le comprenaient clairement comme une revendication que quoi il se prenait pour Dieu. Alors, l'argumentation ici, c'est simplement ceci. Écoutez, si vous ne croyez pas ce que je vous ai dit, regardez aux œuvres que je fais. Regardez aux œuvres que je fais. D'accord? Par exemple, dans chapitre 10 et le verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Il dit, mais j'ai fait plein de miracles. Pourquoi est-ce que vous me lapidez? Pourquoi est-ce que vous me lapidez? Au verset 38, il dit, mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Dans Jean 3, verset 2, lorsque Nicodème vient voir Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et tout au long de l'évangile de Jean, on met en avant ces miracles, les miracles que Jésus fait. Par exemple, vous rappelez la purification, le vin, il a transformé de l'eau en vin dans chapitre 2. Ensuite, il a purifié le temple. Alors ça, c'est un miracle parce qu'il a dû chasser juste avec un fouet des centaines, voire des milliers de personnes dans le temple. Dans chapitre 5, il a guéri le paralytique de Bethesda. Ensuite, au chapitre 6, il a multiplié les pains et les poissons. Au chapitre 6, il a encore marché sur l'eau. Et au chapitre 9, il a encore guéri un aveugle. un aveugle né aveugle. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les miracles, Jésus en a fait un paquet. Vraiment un paquet. Plus qu'un paquet, parce que la Bible nous dit, à la fin, le dernier verset de l'évangile de Jean dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Tellement il a fait le miracle. Alors le problème, c'est que ces Juifs sont restés incrédules. Incrédules. Dans Luc 16, il est dit que même si quelqu'un ressuscitait des morts, les incrédules restent incrédules. Donc, voilà le premier point. D'accord? La première preuve, mes œuvres l'affirment. Il dit, regardez mes miracles et vous verrez que je suis qui je dis je suis. Deux, la deuxième preuve, non seulement mes œuvres l'affirment, mais mes brebis l'affirment. Mes brebis l'affirment. Regardez le verset 26. Ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, on va y revenir tout à l'heure, d'accord? Je vais revenir à ce texte parce que c'est le texte le plus connu, le plus important, je dirais, dans ce chapitre. J'aimerais revenir, mais tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est que mes brebis croient que je suis le Messie, Dieu incarné. Vous ne croyez pas, il leur dit, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Je vais y revenir. Trois. La troisième preuve, un, mes œuvres l'affirment. Deux, mes brebis l'affirment. Trois, ma déclaration l'affirme. Regardez verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors de nouveau, de dire « moi et mon Père, nous sommes un ». Pour vous et moi aujourd'hui, d'affirmer « moi et mon Père, nous sommes un » ne veut pas dire grand-chose. Mais à l'époque, cette phrase « moi et mon Père, nous sommes un » était l'équivalent de dire « je suis ou j'ai la même divinité que mon Père qui est aux cieux ». Disons que je dise, d'accord, j'affirme à vous, d'accord, ce matin, « je suis aussi divin que Dieu ». Si je vous disais ça, d'accord, j'affirme, je suis, moi, John Glass, aussi divin que Dieu. Que répondriez-vous? Vous me répondriez ceci. J'ai demandé à Meg, elle n'est pas du tout d'accord, John, premièrement. D'accord? Et deux, John, j'ai pris rendez-vous pour toi à Belle Idée, l'hôpital psychiatrique. Ah oui, pourquoi? Parce que vous me connaissez et tout le monde sait que je suis un pécheur. Mais lorsque Jésus a dit ça, c'est autre chose. Moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes un en nature. J'ai la même nature divine que mon Père. Je suis Dieu comme il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Nous avons la même sainte nature. Alors nous savons que Jésus est sans péché parce qu'il l'a affirmé. Hein. Quand il se faisait accuser dans Jean chapitre 8, c'est un des versets préférés du Nouveau Testament, il dit ceci au verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? On l'accusait plein de trucs. Il dit, écoutez, alors voilà, prouvez-moi que j'ai péché. Jésus dit ça. Prouvez-moi que j'ai péché. C'est quand même absolument génial. Ce serait facile pour tout le monde de prouver le péché de la personne, sauf si on est sans péché, ce qui était le cas pour Jésus. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, nous, peut-être, on a de la peine à comprendre cette déclaration, moi et mon Père, nous sommes un, mais alors les Juifs, ils ont compris parfaitement ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent le lapider? Il dit ça, mon Père et moi, on est un. Ils veulent le lapider parce que pour eux, c'était un blasphème. Pourquoi? Ben, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, donc miracles, venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Alors, il répond, verset 31, c'est pas pour tes miracles que nous lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Clair et net. Clair et net. On ne peut pas être plus clair que ça. Mais écoutez, il fallait que Jésus soit Dieu, car il nous fallait un homme, mais un homme sans péché, pour pouvoir prendre sur lui notre péché et mourir à notre place. Connaissez-vous un homme qui est sans péché? Moi, j'en connais qu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus est le seul. Et je ne peux être pardonné de mon péché que par celui que j'ai offensé. J'ai offensé Dieu, Jésus-Christ, donc il est mort pour moi, il me pardonne lui. C'est Dieu que j'ai offensé, c'est donc Dieu qui peut me pardonner, et donc c'est par Christ que je suis pardonné. Donc, première réponse, dis-nous franchement, es-tu le Christ? Ben, mes œuvres l'affirment. Deux, mes brebis l'affirment. Trois, ma déclaration qu'on vient de voir l'affirme. Quatre, les Écritures l'affirment. Les Écritures l'affirment à partir du verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » C'est là, appeler Dieu ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors, écoutez, c'est vraiment intéressant. Jésus répond à leur incrédulité en citant un passage dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que les Juifs étaient attachés à l'Ancien Testament, même si leur interprétation était parfois erronée. Au verset 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Alors, écoutez bien le raisonnement ici. L'Ancien Testament utilise parfois, et de manière incontestable, le mot « Dieu » avec un petit D, D-I-E-U-X-X, d'accord ? Petit Dieu. Donc, l'Ancien Testament utilise de manière incontestable le mot « Dieu », ce que je viens de dire, pour désigner des personnes avec une certaine autorité. Par exemple, si on va au psaume 82, le psaume 82, j'y vais, et le verset 6, il est dit ceci, 82:6. J'avais dit, vous êtes des dieux, petit d, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, je recule verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, petit d. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, donc il parle à des juges, d'accord? Il parle à des juges humains. Délivrez-les de la main des méchants, et ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, il parle à des juges, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, etc. D'accord? Donc, il cite le psaume, où c'est un exemple, le psaume 82, verset 6, où le mot Dieu, avec un petit d, est utilisé pour désigner des juges humains. Rappelez-vous de ça. La Bible, donc Dieu, désigne des juges humains comme des dieux petit d, pas un vrai dieu, mais des petits dieux. Pourquoi? Parce qu'un juge a une grande autorité et sont perçus presque par le peuple comme des petits dieux. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est tout ce qu'il est en train de dire. Alors, Jésus dit que puisque Dieu, dans sa parole, a appelé des juges humains qui sont pas par nature imparfaits, ils sont pécheurs, des dieux avec un petit d, en quoi peut-il être inconvenant pour Jésus, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, prouvé par ses œuvres, de se dire être fils de Dieu? Je le répète comme ceci. Si des juges humains pécheurs peuvent être appelés des dieux, avec un petit d, celui envoyé du Père qui n'a pas de péché et qui fait les œuvres de Dieu peut s'appeler fils de Dieu car il est le fils de Dieu. Il ne blasphème donc pas car il est ce qu'il dit être. Oui, Jésus répond, je suis le fils de Dieu. Voilà le but de ce texte. Et oui, vous avez conclu juste à mon égard. Au verset 33, tu te fais Dieu. Je suis un homme, oui, Et je me fais Dieu, verset 33, car je le suis. Et je voulais prouver par l'absence de mon péché dans ma vie et par les miracles que je fais et confirmer par votre loi. Alors il revient, ce qu'on vient de lire, les versets 37 à 38, sur les œuvres qu'il fait, ses œuvres qu'il le prouve. Au verset 39, maintenant ils sont tellement fâchés parce qu'il vient de reprouver encore une fois qu'il est réellement Dieu incarné, le Fils de Dieu, donc de la même nature que Dieu. Et alors, verset 39, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir. Ils veulent le prendre, ils veulent le coincer, le tuer. Mais moi, je trouve ça totalement intéressant au verset 39, mais il s'échappa de leurs mains. Je sais pas, c'est intéressant d'imaginer Jésus qui s'échappe, qui part, qui les évite d'une manière ou d'une autre. Il ne dit pas comment il l'a fait, mais il les échappe. Donc voici très brièvement l'exposé de ces versets, d'accord? La manière que Jésus prouve encore une fois qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, voilà, je suis le Christ, mes œuvres l'affirment, mes brebis l'affirment, ma déclaration l'affirme et les Écritures l'affirment. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes et revenir sur les versets clés, des versets 24 à 29, qui sont des versets vraiment, vraiment importants. D'accord ? Je vais relire, d'accord ? Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ?» Ou en suspens, je sais pas comment on dit ça. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais regardez. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je leur donne verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, ces versets sont très connus et ils regorgent de vérité pour nous. En fait, ces versets sont parmi les versets les plus utilisés dans le Nouveau Testament pour démontrer la sécurité du salut. La sécurité du salut, c'est le thème que j'aimerais aborder maintenant, d'accord ? Car la question qui se pose est celle-ci. Est-il possible pour un chrétien de perdre son salut? Voilà la question. Est-ce que je peux perdre mon salut? Ou bien, une fois que Dieu nous sauve, sommes-nous sauvés pour l'éternité? Et cela veut-il dire que nous sommes, qu'il n'y a rien que nous puissions faire ou pas faire qui nous permettrait de perdre notre salut? Écoutez, c'est une question importante avec des répercussions vraiment, je dirais, hyper importantes. La doctrine de la sécurité éternelle du croyant, appelée parfois la persévérance des saints, est la doctrine qui dit qu'un individu, une fois sauvé, ne peut jamais perdre son salut. Cette doctrine est affirmée par beaucoup de textes bibliques. Alors, je vous en donne quelques-uns. Par exemple, dans Jean 5, 24, d'accord, il dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit est celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce qui est affirmé ici, c'est qu'une personne sauvée reçoit la vie éternelle, elle reçoit la promesse que dans l'avenir, elle ne sera pas condamnée, et qu'elle est passée de la mort à la vie. Et la vie éternelle, par sa nature propre, ne peut être mise à fin. Alors bien sûr, il y a des objections à cette doctrine, principalement de deux sources. Premièrement, l'expérience, le fait que certaines personnes qui se disent chrétiens chutent, ne produisent plus de fruits, et ne donne plus évidence d'un salut, que dire de ces gens-là? Ont-ils perdu leur salut? Et deuxième problème, certains textes bibliques peuvent donner l'impression qu'il y a une part de responsabilité humaine dans l'acquisition du salut, qui impliquerait alors que par un mauvais comportement, un chrétien pourrait perdre son salut. Alors, il faut bien comprendre que la doctrine de la sécurité éternelle du croyant est construite sur la doctrine de la corruption totale de l'homme. Puisque l'homme est pécheur par nature, écoutez bien, puisque l'homme est pécheur, cela veut dire qu'il ne peut être sauvé que par la grâce divine de Dieu. Seul Dieu peut faire réalité le salut dans une vie. Mais si le salut est quelque chose que l'homme peut faire pour lui-même, alors le salut pourrait être perdu. Si c'est une œuvre de Dieu, alors cette œuvre, ben, qu'est-ce que l'homme peut faire pour la perdre? Voilà le sens de notre texte aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais regarder très brièvement quelques textes, quatre en particulier, d'accord? Et on va commencer avec le texte, notre texte de ce matin, Jean 10, à partir du verset 24. Donc au verset 24, il dit, « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Au verset 26, regardez ce qu'il dit. « Vous ne croyez pas, » Jésus répond, « Vous ne croyez pas, vous, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est intéressant comme phrase. D'un côté, les Juifs ne croient pas en Jésus. Ils ne voient pas leur propre péché, ne veulent pas se repentir et venir à Christ pour leur salut, malgré le fait qu'ils ont vu avec leurs propres yeux les miracles de Jésus et la véracité de ses propos. Ils n'avaient aucune excuse pour le rejeter. Ceci, c'est le côté de la responsabilité humaine. L'homme doit se repentir et croire pour être sauvé. C'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'homme doit croire pour être sauvé. Responsabilité humaine. D'un autre côté, Jésus affirme, regardez ce qu'il dit ici, au verset 26, il affirme que il ne croit pas parce qu'ils ne sont pas ses brebis. Ça, c'est le côté de la souveraineté divine concernant le salut. Ceci est ce qu'on appelle l'élection. Dieu élit ceux qui croiront en lui, et on croit parce qu'on fait partie des brebis perdues, choisies par Dieu pour le salut. Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est intéressant, Dieu donne les brebis à Jésus. Chapitre 6, 37. Il dit quoi? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. De nouveau, la souveraineté de Dieu dans le salut. Et 17, 2, 6 et 9, etc. Il y a beaucoup d'autres versets. Donc c'est une sorte de tension intéressante ici. Suis-je sauvé à cause de ma foi ou suis-je sauvé à cause de l'élection de Dieu? Voici la réponse. Oui. Oui, l'homme et son esprit humain ne pourra jamais comprendre, en fait, cette tension. L'exemple suprême, c'est Judas. Judas, parce que Jésus déclarera, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Luc 22, 22a. Donc il dit, voilà, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, souveraineté de Dieu. Il parlait de Judas. Autrement dit, la trahison de Jésus par Judas est conforme au dessein éternel de Dieu. Toutefois, Jésus ajoutera, je cite, « Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Chapitre 22, 22b. Le fait que la trahison de Judas s'inscrit dans le plan de Dieu ne lui épargnera pas la nécessité d'assumer la responsabilité de son crime. Revenons au texte. Verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il dit que les élus répondront à l'appel de Jésus pour être sauvés et continueront dans leur foi jusqu'à la fin. Elles connaissent Jésus pour qui elle est et le suivent. Ça, c'est un sauvé. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Écoutez ça, c'est incroyable. Il leur dit premièrement, je leur donne la vie éternelle. La clarté extrême de ses propos. Jésus parle ici de la sécurité du salut. Jésus affirme de manière la plus claire que le salut ne dépend à rien de l'effort humain, mais que notre salut est enraciné dans l'élection, la promesse et la puissance de Dieu. La grâce de Dieu nous appelle et nous sauve. Je leur donne la vie éternelle. Alors je trouve intéressant le mot éternel. Écoutez bien le raisonnement. Je leur donne la vie éternelle. Éternel veut dire sans fin. Juste ce mot éternel rend l'optique d'une perte éventuelle de son salut un non-sens. Attendez voir. Si Dieu me donne la vie éternelle, comment puis-je la perdre puisqu'elle est éternelle? Je te promets de donner une vie éternelle dans ma présence pour toute l'éternité à cause du sang de Jésus et ce qu'il a fait pour toi à Golgotha. Ah oui, mais si tu pèches, tout est caduque. Tu perds tout. Mais alors à quoi sert le sacrifice de Jésus si la perte de mon salut dépend de moi? Si je peux faire quelque chose pour perdre mon salut, Jésus est mort pourquoi finalement alors? Ceci est un non-sens. La vie éternelle qui nous est promise est par nature éternelle. Et pour le cas où nous aurions mal compris, regardez la suite. Regardez la suite. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Mais ça veut dire quoi? Elles ne périront jamais. Jamais veut dire quoi? Ben, c'est impossible. Si tu vas jamais périr, ça veut dire que tu ne périras jamais. Je ne sais pas comment dire d'autre mieux. C'est impossible de périr. Qu'ont-elles de mourir? C'est impossible de perdre la vie éternelle. Et au cas où on aurait mal compris, il continue dans le même verset. Et personne ne les ravira de ma main. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien dire? Jésus nous prend symboliquement, bien entendu, dans sa main. Dans sa main. On est dans sa main. Et personne, donc, personne veut dire quoi? Bah, personne ne peut faire quoi? Les ravir de ma main. Le mot ravir veut dire enlever de force. Personne ne peut venir et ouvrir la main de Jésus pour nous sortir de sa main. Non. Personne peut le faire. Impossible. Pas une personne, ni moi-même. Je ne peux pas me sortir de sa main. C'est ce qu'il dit. Et au cas où les choses ne sont toujours pas claires, il faut aller au verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Qui choisit ceux qui sont donnés à Jésus? En plus, c'est le Père. Qui est le plus grand de tous? Le Père. Il est plus grand que toute personne, que tous les anges qu'il a créés, même plus grand que Satan, parce que Satan était un ange au début qu'il a créé. Il n'y a personne de plus grand que Dieu, point barre. Qui peut ravir une brebis de la main du Père? Ben, qu'est-ce qu'il dit? Personne, verset 29, ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Donc, écoutez, une fois qu'on est dans la main de Jésus, et moi, c'est comme ça qu'on m'a une fois décrit cette image, voilà, on est dans la main de Jésus et la main du Père tac, se met par-dessus. Et là, on est vraiment sain et sauf dans la main de Jésus et dans la main du Père. Mais oui, et une fois qu'on est dans la main du Père, le texte dit « on y reste ». C'est incroyable. Personne ne peut nous ôter de la main du Père. Et c'est logique, Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme si je rentre dans la main du Père et du Fils, et il me garde. Ça me rappelle aussi Jean 6, 39 et 40, écoutez, c'est tellement génial. Jean 6, 39 et 40, il dit quoi? Il dit... Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse, une garantie. C'est extraordinaire. Absolument extraordinaire. Donc, écoutez, mes amis, il est très difficile de prendre ces versets, de conclure que nous ayons quelque partie dans notre salut, que nous ayons la capacité de nous désauver, de perdre notre salut. Regardez maintenant Éphésiens 1. On va aller un petit peu plus vite, d'accord? Éphésiens 1. C'est incroyable, car ce chapitre nous montre aussi que le salut vient entièrement de Dieu et que l'homme n'en est pour absolument rien dans son salut, d'accord? Il ne peut rien contribuer, il ne peut pas produire des bonnes œuvres, assez de bonnes œuvres pour atteindre la perfection de Dieu, c'est absolument impossible. Non, le salut est une grâce, un don donné par Dieu à nous à cause de son Fils. Alors regardez, je lis très vite, hein. Verset 3. Béni, Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il parle à des chrétiens, il leur dit, vous avez toutes les bénédictions célestes. Incroyable. Verset 4. Deuxième chose. En lui, nous avons été élus quand? Avant la fondation du monde, avant même que le monde existe, que la terre existe, avant Genèse 1:1, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Écoutez, on a été élus avant même la fondation du monde. C'est incroyable quand même. 3, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés à être ses enfants. Donc avant la fondation du monde, il savait déjà, ah, John, un jour sera enfant de Dieu. Quatre, en lui nous avons la rédemption, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est tout ce qu'il nous donne gratuitement ici. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillante dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, etc. Enfin, il est en train de nous dire, il nous a même fait connaître ce mystère. Ça vient de lui. J'aurais pu jamais comprendre ces choses s'il ne me les avait pas révélées. Regardez verset 11. En plus, 6. En lui, nous sommes devenus héritiers. C'est quoi un héritier? C'est quelqu'un qui hérite. Ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Mais oui, je suis héritier, je reçois toutes les bonnes choses de Dieu. Bien sûr, j'hérite le ciel. Et quand on avait un doute, verset 13, septième chose qu'on reçoit de Dieu, on est scellé du Saint-Esprit en lui aussi après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Écoutez, si on peut perdre son salut par un péché qu'on pourrait faire nous-mêmes, ces versets disent quoi? En lui aussi, après avoir été entendu par la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Un sceau, paf, c'est pour dire, c'est tu m'appartiens, point barre. Bah, si je peux perdre mon salut par une œuvre que je fasse, bah, le sceau c'est quoi exactement? Écoutez, nous n'avons rien contribué à notre salut, mes amis. Comment pourrions-nous contribuer à la perte de notre salut? Il nous promet sa gloire, nous donne son gage. Rien ne peut rompre cette promesse. Regardez Romains 5. Très vite. Numéro verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On était ennemis, en Christ, on a la paix. Verset 2. À qui nous avons devoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de cette gloire de Dieu. Waouh, nous demeurons fermes dans la grâce de Dieu. Verset 5, on reçoit en plus l'amour de Dieu. Regardez, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour agapé, la capacité d'aimer avec sacrifice vient vraiment de Dieu, donné par le Saint-Esprit. Moi, quand je dis ça, je me dis, bon, alors ça veut dire que si je peux perdre mon salut, tac, ça vient à sa part, j'ai plus. Non, il nous donne un cadeau qui s'appelle l'amour agapé, et nous avons la paix avec Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, et nous serons glorifiés. C'est un total, c'est un package, comme on dit en anglais. Et verset 9, regardez. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Ben oui, je suis sauvé, et je suis sauvé de sa colère, ah oui, mais jusqu'au prochain péché. Non, ce serait même plus une espérance alors. Non, je suis sauvé de sa colère, c'est fait, c'est absolument fait. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Mais bien sûr. C'est incroyable. Et quelle joie nous avons, verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. On est ennemis, nous sommes maintenant réconciliés. Nous l'avons obtenu déjà. Je vais faire ça demain? Non, je l'ai. Allez avec moi à Romains 8, quatrième texte, Romains 8. On va vite, hein. Alors écoutez, si on peut perdre son salut, le verset 1 est un non-sens. Il n'y a donc, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je dis, alléluia, je suis plus condamné, j'ai la vie éternelle, Jean 3,16, c'est une promesse. Mais pour ceux qui disent, non, je peux perdre mon salut, ah, Seigneur, alléluia, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, jusqu'à demain peut-être. L'œuvre de Jésus-Christ a servi à quoi dans ce cas-là? Au fait. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. Car ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si je ne peux pas être sauvé par les œuvres, comment est-ce que je peux être désauvé par les œuvres? C'est même pas logique. C'est pas logique. Donc, chapitre 8, 1, aucune condamnation. Regardez verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi. Le prix a été payé par Jésus-Christ. Je suis maintenant libre de ce péché. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pêche plus, ça veut dire que le pouvoir de péché est rompu dans ma vie. Donc, je peux maintenant vivre de moins en moins dans le péché. Verset 9, on reçoit une nouvelle nature en plus. C'est incroyable. Verset 9. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. On a une nouvelle nature, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il est en train de dire, waouh, je vais être ressuscité un jour. C'est une promesse. Et en plus, verset 15, on est adopté. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Et puis, bon, c'est verset très, très connu. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a appelés, regardez-moi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il va les glorifier. Claire, nette promesse. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, écoutez, j'ai l'assurance de ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de lui. Pourquoi? Parce qu'on est saints et saufs dans la main du Fils et dans la main du Père. Amen et amen. Voilà, voilà la vérité. Alors écoutez mes amis, je conclue, d'accord? Si on pouvait perdre son salut, ça s'impliquerait tout simplement que mon salut dépendrait de moi. Or, Éphésiens 2, 8 et 9 dit que ce n'est pas le cas. Deux objections peut-être. Si mon salut est vraiment éternel et qu'une fois sauvé, je suis toujours sauvé, alors c'est super. Certains pourraient dire, alors je peux pécher tout ce que je veux. Je ne serai jamais condamné. Hein. C'est toujours l'argument, ouais, ben, c'est trop bien ton truc, John. Ça veut dire que moi, je peux pécher maintenant, je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux, j'irai quand même au ciel. Ah, pas si vite. Pourquoi? À cause de Romains 6. Bon, il y a beaucoup d'autres textes. Mais lorsque tu es une nouvelle créature, lorsque tu es né de nouveau, lorsque Jésus vit en toi, bien, écoutez ce qu'il est dit dans Romains 6, déjà verset 1. Que dirons-nous? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Non, je ne vais pas continuer à pécher parce que je suis sauvé comme ça et la grâce abondera vis-à-vis de moi. Pourquoi? Eh bien, au verset 16, 17 plutôt, « Mais grâce a rendu à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Le problème, mon ami, c'est que lorsque tu es pardonné pour ton péché, à partir de cet instant, tu détestes péché et tu aimes la sainteté. Et donc, tu ne peux pas pécher comme avant. C'est pas possible. Parce que chaque fois que tu pèches, non, il y a le Saint-Esprit qui te convainc. Tu dis non, non, non. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification. Un chrétien ne veut plus pécher. Et il luttera contre ce péché. Et alors, comment comprendre les personnes qui ont une apparente conversion à Jésus-Christ, puis un jour chutent, disparaissent, ils abandonnent tout. On en connaît tous des gens comme ça. Fidèles, des gens chrétiens, on pensait, et tac, d'un coup, ils disparaissent. On se dit, mais est-ce qu'ils sont sauvés, ces gens-là? Mais écoutez, je pense que la clé, c'est 1 Jean 2,19. 1 Jean 2,19 qui dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres, car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Un vrai chrétien persévère. On peut avoir des chutes, mais il revient et il persévère. Peut-être comme Judas, il y en a qui donnent l'impression d'être chrétien, mais un jour, tac, ils partent, on ne les voit plus jamais. Il est possible et probable que ces gens n'ont jamais été chrétiens du début. Alors écoutez, mes amis, cette vérité a des implications énormes dans notre vie. Regardez tout ce qu'on vient de voir, tout ce que Dieu nous a donné. Eh bien, il m'a donné tout cela. Ça, c'est mon espérance dans un monde déchu. Et voilà d'où vient ma joie. Ma joie, elle vient de ça, de ce que Dieu m'a donné, mon salut. Et je peux donc avoir la joie dans un mariage qui va mal. Je peux avoir cette joie quand j'apprends que j'ai le cancer ou une maladie grave. Je peux avoir la joie quand je perds mon emploi. Je peux avoir la joie quand la bourse s'effondre. Je peux maintenir la joie quand le coronavirus nous guette et me fait peur. Je peux rester dans la joie dans toutes circonstances. Pourquoi? Parce que mon salut m'a été donné par Dieu. Et voilà mon espérance. C'est une certitude scellée. Et donc, les épreuves de cette vie sont moindres importantes. Alors, on les travaille, on fait tout ce qu'on peut pour les résoudre, mais c'est en Christ. En Christ, c'est là où est notre regard. Seigneur, merci de tout cœur. Merci parce que on était vide ce matin, mais quelle incroyable bénédiction tu nous donnes. Seigneur, je te prie que pour chacun, chacune ce matin qui écoute, tu les bénisses et tu puisses faire une œuvre en eux pour qu'ils sachent sans aucun doute qu'ils sont sauvés pour l'éternité et que leur vie le reflète. Seigneur, à toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Mes amis, dimanche prochain, ce sera Franck qui sera là. Je ne viendrai pas non plus au culte, mais je serai là le dimanche d'après, surtout pour l'anniversaire de l'Église. Donc, merci vraiment. On est tous, on fait tout ce qu'on peut dans ces moments très, très bizarroïdes du coronavirus. Mais voilà, je ne suis pas positif, je suis négatif, donc ma vie continue, mais on se parlera au téléphone. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Au revoir.